Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le Salon Bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
Vous savez, à la haut sur la colline, il y a un département des plaintes. Or, récemment, dans une analyse en parlant de la crise du logement et du manque de logements sociaux, j'ai affirmé qu'une part de la responsabilité revenait peut-être à la bureaucratie, notamment au groupe de ressources techniques. C'est un intermédiaire là, dans ce monde-là que je vais justement vouloir expliquer aujourd'hui. Bien, ça a choqué des gens au milieu de ces dans ce milieu-là des groupes de ressources techniques. Et pour mieux comprendre ce que c'est un GRT, leur rôle et ce qu'ils pourraient peut-être apporter dans comme solution dans la crise, bien, je rejoins Raphaël Derry. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Robitaille.
Monsieur Derry, je vous présente, vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais. Ça, c'est un groupe de ressources techniques.
Exactement. On réunit une trentaine de coopératives d'habitation sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais et de la MRC Antoine Labelle.
Pour le commun des mortels, qu'est-ce que c'est qu'un groupe de ressources techniques? Pourquoi ça existe? Pourquoi cet intermédiaire-là dans le monde de l'habitation?
En fait, un groupe de ressources techniques, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est un réseau qui date d'à peu près une quarantaine d'années, 45 ans. Puis l'objectif de ces groupes-là, donc c'est des OSBL un peu partout au Québec, c'était de faciliter la réalisation, et c'est encore de faciliter la réalisation de projets d'habitation communautaire. Donc, quand les OSBL puis les coopératives, quand des gens, des bénévoles, des citoyens ont envie de créer un projet d'habitation communautaire, coop d'habitation, ben, ils vont consulter un groupe de ressources techniques. Puis nous, on a une expertise là pour faciliter la réalisation de ces projets-là, parce qu'on connaît les programmes de financement, on connaît les partenaires, on connaît les étapes de réalisation des projets. Donc nous, on est là pour faciliter la réalisation. C'est pour ça que quand je vous ai entendu la semaine dernière, j'étais d'accord avec une partie de votre prémisse qui était à l'effet que c'est pas le gouvernement qui est responsable de la crise du logement. Ça, je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus. Mais l'imputabilité peut pas reposer, à mon sens, d'aucune façon sur les groupes de ressources techniques. Nous, on est là pour faciliter. Là, on subit la bureaucratie.
Ah, vous subissez la bureaucratie. Mais vous êtes un intermédiaire, si je comprends bien. Mettons que des citoyens veulent de l'habitation, ils vont vous voir, c'est ça que vous m'expliquez?
Oui, alors exactement, et on va les accompagner à travers l'ensemble du processus, la réalisation.
Mais pourquoi ils vont pas tout de suite voir, mettons, leur échevin ou leur député? Pourquoi ils passent par vous?
Bien, ils passent par nous, puis je vous dirais qu'on a généralement fait l'affaire de tous les gouvernements, parce que sinon, c'est le gouvernement du Québec directement qui répondait à l'appel de chacun de ces citoyens-là. Alors que là, nous, on agit comme chargé de projet, donc on travaille avec la SHQ, par exemple, on travaille avec les municipalités.
Ça, c'est la Société d'habitation du Québec.
Oui, exactement, merci de la précision. Donc, on travaille avec ces partenaires-là, mais on est un peu, je veux pas dire guichet unique, là, c'est pas exact, mais on a créé ces partenariats-là avec l'ensemble des intervenants. Donc, ça facilite le travail de tout le monde, parce que sinon, si c'était la ville là, qui recevait les appels à tout bout de champ pour démarrer des projets, ben la ville, de toute façon, n'a pas les outils pour s'occuper de projets d'OSBL en habitation comme ça.
Mais pourquoi c'est pas le ministère de l'habitation ou la Société d'habitation du Québec qui reçoit ces appels-là directement ou la portion de l'administration municipale qui est dédiée à l'habitation?
Bien, en fait, parce que ce que la SHQ a voulu faire comme modèle à l'époque, c'était d'avoir à l'intérieur des réseaux, donc les coopératives d'habitation, que cette expertise-là soit développée à l'intérieur de ces réseaux-là, que ce soit des réseaux autonomes qui se développent.
Des réseaux, expliquez-moi.
Oui, ben les coopératives d'habitation, ben c'est une forme de réseau. Donc on travaille, on fait de l'intercoopération, de l'entraide en coopérative. Donc on essaie de développer. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que c'est qu'une coopérative. Hein. Ce sont les membres, ce sont les locataires dans l'habitation qui vont prendre les décisions démocratiquement pour la coopérative, pour leur parc immobilier, en tenant compte de leurs besoins puis de leur capacité de payer. Donc alors, c'est pour ça la SHQ, puis je dis la SCHL également, la Société canadienne d'hypothèque et de logement du côté fédéral, eux, ils ont voulu développer cette expertise-là au sein des réseaux. puis, eux, c'est ça, ça faisait quand même leur affaire là, de pouvoir avoir cette, vous dites, intermédiaire, d'avoir ces professionnels-là qui pourraient aider les gens à la prise en charge de leur projet. Là.
C'est comme une fonction publique, j'allais dire parallèle, je sais que ça peut avoir l'air péjoratif, là, mais je veux dire, c'est comme une fonction publique à l'extérieur de la fonction publique, au fond.
Ah, moi, je partage pas du tout cette perspective-là parce que on est dans de l'économie sociale. Nous, on est là pour faciliter les projets.
C'est quoi la différence? C'est quoi la différence pour l'auditeur là, qui écoute? Là?
Ben, la grande différence, c'est que moi, j'ai pas dans mon entreprise d'économie sociale, j'ai pas la convention collective des employés là, de l'État québécois, par exemple. Okay. Moi, je fais affaire directement avec les professionnels, avec les architectes, avec les ingénieurs. Je les connais dans mon patelin. On est là pour accélérer les processus, mais on va connaître aussi la réglementation québécoise. Et le financement, c'est pas que gouvernemental parfois. Là, donc, on va chercher du financement gouvernemental, mais des fois, on fait des projets à l'extérieur des programmes gouvernementaux, donc c'est pas que la fonction publique. Là.
OK. Donc, l'argent peut venir de privé, c'est ça?
Oui, bien, tout à fait. Puis, je vous avoue qu'avec les difficultés de trouver le financement public depuis quelques années, ben il a fallu qu'on trouve des façons particulières de développer nos projets à l'extérieur des programmes gouvernementaux. Donc, on va voir des partenaires financiers différents, des fondations, par exemple. Là.
Ah oui, OK. Donnez-moi des exemples de fondations qui vont financer du logement social.
Ben, je vous dirais que une des fondations qui fait là, j'ai peur d'en oublier, là, mais une de celles là, qui me vient à l'esprit rapidement, c'est la fondation André-Lucie Chagnon, par exemple.
Ah oui, OK. OK. Est-ce que tous les groupes de ressources techniques sont efficaces? Ou est-ce que...
Moi, je défends ce réseau-là à 100 km/h. Là, j'ai aucune réserve là-dessus. Ceci dit, ce que je peux déplorer avec le temps, puis je pense pas que personne va m'en vouloir là-dessus, mais parce qu'on, nous, dans le fond, notre expertise, on l'a à travers la réalisation des projets. Si on a moins de projets à réaliser parce que le financement public est de plus en plus rare, mais c'est sûr qu'on a peut-être plus de difficultés à entretenir cette expertise-là. La façon qu'on a pallié à cette difficulté-là, ben ça a été de se soutenir dans un réseau beaucoup plus grand. C'est sûr qu'il y a des GRT qui ont continué à réaliser des projets, en particulier à Montréal, par exemple. Alors là, ce sont les plus grands GRT qui ont réussi à travers de l'entraide, à soutenir l'ensemble du réseau. Puis, donc, on fait de la formation en continu avec l'ensemble du territoire là-dessus. Mm-hmm.
Donc, vous qui êtes au cœur de ça, la construction du logement social, c'est quoi le problème? Pourquoi, comme dit, tu sais, j'ai entendu François Legault lors de son discours d'ouverture, juste après les élections, il y a un an, il a pointé directement, il a dit, on met de l'argent dans le logement social, puis ça se construit pas. Est-ce que c'est juste la rareté de main-d'œuvre ou qu'est-ce qui fait que, justement, on n'arrive pas à en construire plus rapidement? Tu sais, à Montréal, même chose, il y avait une promesse de Mme Plante là, d'en construire plusieurs milliers. Finalement, je me souviens, au bureau d'enquête, on a déterminé que c'était une fraction de ces milliers-là qui avaient été construits. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ben en fait concrètement, tu sais, il y a deux enjeux là, parce qu'il y a l'enjeu de la difficulté de la construction, mais il y a l'enjeu de la crise du logement dans son sens large. Ben là, tu sais, j'ai envie de nommer par exemple la croissance démographique très importante qu'on connaît depuis quelques années, depuis plusieurs années en fait.
L'immigration. On peut dire l'immigration.
Oui, on peut effectivement nommer ça. On n'a pas une politique nataliste très très efficace pour l'instant.
C'est ça.
Donc, mais oui, l'immigration par exemple. Mais ensuite, on a une diminution du parc privé aussi parce que vous avez vu les Airbnb. Moi, j'ai été catastrophé de voir à quel point les plateformes, elle est hyper populaire dans les secteurs centraux, nos villes. Il y avait une compagnie, une multinationale, en fait, qui avait fait un recensement des logements qui avaient été convertis en hébergement court terme dans les plus grandes métropoles du monde.
Ouais.
Puis le Vieux-Montréal, c'est une vraie catastrophe. Là. Tout était rouge de disponibilité pour cet hébergement.
Mais dites-moi, c'est quand même pas Airbnb qui empêche la réalisation de logements, voilà. Comme le dit le premier ministre, et à Montréal, les promesses, et c'est ni la démographie, ni les Airbnb. Alors, c'est quoi?
Alors, pour ce qui est de la construction, ça, c'est un choix de politique publique. Depuis, je vous dirais, une quinzaine d'années, ce qu'on observe, c'est que les gouvernements qui se sont succédés ont préféré ce qu'on appelle le financement à la personne plutôt qu'à la brique. Ça, c'était le gouvernement Harper, on utilisait beaucoup cette expression-là. Okay. Mais donc, on voulait, en somme, financer les ménages à l'intérieur, soit d'un parc privé ou de l'habitation communautaire, mm-hmm. avec ce qu'on appelle des suppléments au loyer. Alors ça a été une façon, mais plutôt que de construire puis de financer la construction de logements communautaires ou abordables, ben on est allé vers cette façon-là de finalement mm-hmm. pour financer les personnes plutôt que la construction. Et on a gelé. On a fait une sorte de moratoire sur l'indexation des coûts de construction, les coûts admissibles de construction. Alors là, je vous donne un exemple, mais pour le gouvernement du Québec, là, ça coûte grosso modo la même affaire construire un logement aujourd'hui en 2023 que ça en coûtait en 2015 ou en 2014.
Ah.
Et ça a été ça tout le temps.
Donc, ils n'ont pas ajusté leurs enveloppes, là.
Exactement. Alors,
mais ça pourtant, a été ça, le premier ministre, il dit, c'est le 5 décembre 2022, il dit, il y a des milliards qui sont disponibles pour construire des logements sociaux abordables, puis on n'arrive pas à les construire. Donc, c'est des milliards, oui, mais pas assez d'argent pour chaque projet parce qu'on calcule comme si on était encore en 2014, c'est ça, si je comprends bien?
Ben c'est pas mal ça, effectivement. Puis l'autre chose, c'est pas que de construire. Souvent, ces programmes-là sont assortis de différentes contraintes, de différentes conditions. Et puis ça fait souvent que ça génère des coûts supplémentaires dans la réalisation des projets. Mmh. Alors, je vous dirais que moi, quand j'identifie les facteurs de difficulté pour la réalisation des projets avec les programmes actuels, là, mmh. on a le financement qui est défaillant. Mmh. Et on a des programmes qui sont pas agiles. Donc,
Il y a Accélogie qui a été éliminé parce qu'on le trouvait justement pas efficace et il a été remplacé par un autre, d'après ce que j'ai compris, par la ministre Duranceau. Puis celui-là, il est pas plus efficace, d'après ce que je comprends aussi. Donc, on est mal barré.
Moi, je suis un nationaliste, d'accord? Moi, je suis très fier de ce qu'on fait au Québec. Puis on a toujours eu des politiques publiques innovatrices.
Ouais.
Le gouvernement fédéral, je parle à un constitutionnaliste amateur en vous, là.
Oui.
Le gouvernement fédéral a assumé cette compétence-là dans les années 50 jusqu'à dans les années 90. Le Québec a pris sa place avec le programme Accélogie, avec le gouvernement de Lucien Bouchard, puis sous la direction de Louise Arel à l'époque, avec la conception du programme Accélogie. Et ça a permis, on a 80 000 unités qui ont été développées dans le réseau de l'habitation communautaire avec les GRT depuis les années 80. Puis Accélogie a permis la réalisation de 45 000 de ces 85 000 ou 80 000 là.
Okay.
Alors, ça, pour moi, c'est un signe qu'on a réussi quelque chose. Puis pendant ce temps-là, dans le reste du Canada, il ne se développait pas d'unités de coopératives ou de logements communautaires. Alors, Accélogie a été utile, mais encore faut-il qu'on le finance puis qu'on le priorise. Si on ne le fait pas, ben c'est regrettable, mais effectivement, on arrivera au même constat que le premier ministre. On met de l'argent, mais pas assez, puis on ne réalise pas des projets.
Donc, c'est à lui à agir? C'est ça que vous me dites, au fond?
C'est clair, ça prend des décideurs. Moi, je trouve que les gouvernements, les municipalités déploient beaucoup d'efforts pour réaliser des projets, pour innover. On a vu les droits de préemption. Je vois beaucoup d'initiatives ici à Gatineau, oui. Du côté de Montréal, à
ici,
Québec.
Ici, à Québec, là, il y a sept terrains, je pense, où la Ville a exercé son droit de préemption.
Exact. Oui, c'est colossal. Mais là, du côté du gouvernement du Québec puis du gouvernement fédéral, là, on doit vraiment mesurer l'ampleur de la crise puis agir. Alors ça, il y a une urgence, là.
Ben, c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, Raphaël Derry. Puis je m'excuse, là, pour ma déclaration. Et je rappelle que vous êtes directeur général de la Fédération intercoopérative en habitation de l'Outaouais.
Merci.
Au revoir. Et c'est ainsi que se termine La Haut sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.